un programme hebdomadaire que nous commençons comme chaque semaine avec les titres du journal. Et c'est tout d'abord Bruxelles qui ouvre l'actualité, qui confirme l'octroi en urgence de 700 millions d'euros sur trois ans, aux pays de l'Union européenne en crise humanitaire. Crise humanitaire, vous en doutez, liée à la question de la crise migratoire. Une aide destinée donc essentiellement à la Grèce afin de l'aider à venir au secours des dizaines de milliers de migrants désormais coincés dans le pays. Outre-Atlantique, c'était le Super Tuesday qui a consacré deux vainqueurs hier soir. Hillary Clinton, du côté démocrate, et du côté républicain, le fameux, désormais fameux, Donald Trump. Et on terminera ce journal avec Xavier Bertrand et sa plateforme dans région Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Sa plateforme Proche Emploi, ainsi que les premiers chiffres, les premiers résultats de cette plateforme. À suivre également au sein de cette émission, après ce journal, l'édito politique, on reviendra ce soir sur la question épineuse du Brexit. Et oui, que ferait l'Union Européenne si le Royaume-Uni s'en allait ? À suivre ensuite les feuillets de l'Europe avec vous, Vincent Tell, bonsoir.
Bonsoir Antoine, bonsoir chers auditeurs.
Une indication pour vos feuillets tout à l'heure ?
Ah Seigneur, c'est difficile, ça va de la grève des femmes en 1966 au contrat zéro heure en Belgique.
D'accord.
Les deux événements se situent en Belgique, mais pas à la même époque.
D'accord, donc voilà. On voit des 30 glorieuses à l'ubérisation de l'économie.
Exactement.
En tout cas, c'est à suivre tout à l'heure dans les feuillets de l'Europe, pardon. Mais pour l'heure, c'est l'heure du programme. Bruxelles a confirmé aujourd'hui l'octroi en urgence de 700 millions d'euros sur 3 ans destinés aux pays de l'Union européenne en crise humanitaire. Une aide destinée donc essentiellement à la Grèce afin de l'aider à venir au secours des dizaines de milliers de migrants désormais coincés dans le pays. La Commission européenne proposera au Conseil, à savoir donc les États membres, et au Parlement européen d'accepter un budget rectificatif pour 2016 afin que d'ores et déjà 300 millions d'euros d'argent européen puissent être alloués à Athènes. En tout, 400 autres millions d'euros devraient pouvoir être dirigés vers les pays de l'Union en pleine crise humanitaire d'ici à 2018. Aux abois, le gouvernement du Premier ministre grec Alexis Tsipras avait fait savoir qu'il avait besoin de 450 millions d'euros. Désormais, plus de 20 000 migrants, dont beaucoup de femmes et d'enfants, sont coincés à Athènes, dans les îles de la mer Égée et à la frontière avec la Macédoine. À quoi les sommes européennes serviront-elles dans l'immédiat ? L'État grec manque de tout, nourriture, couverture, logement d'urgence, etc. C'est en tout cas une première dans l'histoire de l'Union européenne qui se voit obligée d'apporter une aide humanitaire à un pays membre, alors que jusqu'à présent ce type de soutien financier d'urgence était réservé à des pays tiers, d'Afrique ou d'Asie. C'est la conséquence malheureuse des décisions non coordonnées prises par les gouvernements d'autres pays membres de l'Union, Autriche, Hongrie, Slovénie, etc., qui ont, ces derniers jours, presque fermé leurs frontières aux migrants, y compris aux réfugiés, violant par la même occasion les conventions de Genève. Sans attendre que les solutions européennes décident à 28 et à Bruxelles, relocalisation partout en Europe des réfugiés, accord de réduction des flux de migrants avec la Turquie, portent leurs fruits. D'où l'argent proviendra-t-il exactement ? La Commission n'a pas précisé. Aujourd'hui, d'où viendraient les fonds au sein du budget de l'Union ? Juste qu'ils ne seraient pas pris aux dépens de l'aide humanitaire déjà destinée aux pays tiers d'environ 155 milliards d'euros, mais de ressources internes. Au Parlement de Strasbourg, en tout cas, les élus grincent des dents. Ils regrettent de n'avoir pas été prévenus plus tôt, de n'avoir pas non plus été suffisamment consultés. Certains assurent avoir déjà mis devant le fait accompli lorsqu'il a fallu, il y a quelques semaines, dégager 500 millions d'euros de budget européen pour aider les réfugiés syriens en Turquie. Avec cette aide humanitaire, l'Union acte le fait que la Grèce va se transformer progressivement en vaste camp pour réfugiés parce que d'autres membres de l'Union refusent de prendre leur part de la crise et d'accueillir les migrants. Il y a quelques jours déjà, le gouvernement grec redoutait de devenir le Liban de l'Europe. Outre-Atlantique, le Super Tuesday a consacré deux vainqueurs hier soir, le 1er mars. Hillary Clinton pour les démocrates, Donald Trump pour les républicains. L'ancienne First Lady a raffermi son emprise sur la course à l'investiture démocrate dans la perspective de l'élection présidentielle du 8 novembre, emportant à 10 son total de victoires. Elle a profité de son avantage dans les États du Sud, l'Arkansas, l'Alabama, la Géorgie, le Tennessee, le Texas et la Virginie, où elle dispose d'un pare-feu contre son adversaire Bernie Sanders, grâce à la fidélité de l'électorat afro-américain. Mais Hillary Clinton l'a aussi emporté dans le Massachusetts, état voisin du New Hampshire, où sa déroute le 9 février avait alimenté des doutes. Le sénateur du Vermont qui l'a emporté dans son état, l'a également emporté dans l'Oklahoma, le Minnesota et le Colorado qui s'ajoutent au New Hampshire. Les résultats de l'Alaska qui votait plus tardivement n'étaient pas encore connus ce matin. Dans les discours qu'il a prononcés en début de soirée, le doyen des courses aux investitures, 74 ans, a invité ses troupes à rester mobilisées. Le fossé se creuse cependant inexorablement entre les deux candidats démocrates, notamment du fait de la large avancée dont bénéficie Hillary Clinton auprès des super délégués, ces grands électeurs qui s'ajoutent à ceux attribués au cours des primaires. Préfigurant la campagne présidentielle à venir, l'ancienne secrétaire d'État qui se trouve en Floride a consacré une partie importante de son discours de victoire, hier soir donc, à attaquer celui qui fait la course en tête côté républicain, le mania de l'immobilier Donald Trump. Ce dernier, présent dans le même État, lui a rendu l'appareil en s'interrogeant sur son éligibilité du fait de la controverse liée à l'usage d'un serveur et d'une adresse privée pendant ses années passées à la tête de la diplomatie américaine. C'était un engagement de campagne de Xavier Bertrand. À peine avait-il pris ses fonctions à la présidence de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie qu'il lançait, le 5 janvier, un nouveau dispositif baptisé Proche Emploi. Il y avait de fortes attentes. Tout au long de la campagne, on avait entendu des critiques très violentes vis-à-vis de Pôle Emploi, explique son directeur de cabinet, Alexandre Brugère. Soit on passait beaucoup de temps à concevoir le dispositif, soit on le mettait en place sans tarder, quitte à rectifier en cours d'expérimentation. Fin de citation. C'est la marque de fabrique de Xavier Bertrand, l'expérimentation et le pragmatisme, sans négliger pour autant l'intérêt politique. Proche Emploi est le symbole de la mobilisation générale de la région pour l'emploi, appuie Alexandre Brugère. Quels que soient les interlocuteurs, ils s'accordent à reconnaître que le dispositif Proche Emploi a pour premier avantage de rendre le conseil régional visible et proche des gens. En termes de communication, c'est très fort, admet une responsable de l'ancienne majorité régionale. Selon les chiffres communiqués par la région, en 8 semaines d'existence, Proche Emploi a reçu 5300 appels et 3900 entretiens ont été réalisés. Sur ce nombre, 1300 personnes ont été orientées vers une offre d'emploi, 1000 vers une formation. Orientées, cela ne signifie donc pas que cela débouche sur une embauche ou une formation. Quelques unités à ce stade ont retrouvé un emploi, reconnaît Frédéric Leprêtre, le coordonnateur de la plateforme, qui chiffre à une quinzaine le nombre de contrats en entreprise et une cinquantaine celui en inscription de stage. Nos systèmes d'information ne sont pas encore en mesure de nous fournir le retour sur qui est entré, où et quand on construit en marchant, admet-il. Enfin, pour conclure ce journal, en bref, le grand rassemblement réalisé en juin 2015 au congrès de Poitiers, de Manuel Valls à Martine Aubry, a finalement volé en éclats. Les partisans de la maire de Lille ont annoncé lundi qu'ils quittaient la direction du Parti Socialiste, déçus par la politique menée par le gouvernement et globalement soutenus par la direction du parti. Vous écoutez EIBS Radio, il est 18h08. Dans un instant, l'édito politique après le jingle ce soir... Et si le Royaume-Uni s'en allait ? La position officielle de Bruxelles est qu'un Brexit n'est pas envisageable. L'accord étant trouvé entre le Conseil européen et le gouvernement britannique, il n'est, pour les institutions, pas concevable que le référendum aboutisse à la sortie du Royaume de l'Union. Cependant, cette éventualité est bien possible et l'on reconnaît à Bruxelles qu'il n'existe pas de plan B d'après l'aveu même d'Alexander Winterstein, le porte-parole de la Commission. Il y a pourtant des pays qui seraient heureux de mettre en difficulté Londres, la Bulgarie et la Roumanie en premier lieu, membres à part entière de l'Union Européenne. Ils rêvent de mettre en difficulté David Cameron qui les a caricaturés sur la scène européenne. En cas de Brexit, donc, l'article 50 du traité sur l'Union européenne serait appliqué, lançant un long processus de négociation avec Bruxelles pour définir le cadre de la sortie, les Britanniques étant convaincus d'obtenir un accord de libre-échange avec le reste de l'Union. À la lumière des orientations du Conseil européen, l'Union négocie et conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l'Union. Voilà ce que précise l'article en question, où il n'est fait nulle mention d'un accord économique automatique. Les fameux pays de l'Est que Londres a courroucés seraient bien heureux d'empêcher la conclusion d'un tel accord, et si des dispositions sont prises pour étendre le délai de négociation dans certains cas précis, nul ne peut exclure que le Royaume-Uni ne se retrouve dehors sans autres avantages de l'UE. Il est difficile de spéculer sur cet avenir incertain, d'autant que, si les mécanismes d'entrée dans l'Union sont aujourd'hui connus et rodés, l'article 50 n'a pour l'instant jamais été utilisé. Il n'y a par conséquent aucun précédent historique sur une sortie de l'Union européenne. La temporalité et la feuille de route sont aussi préoccupantes. Le Royaume-Uni pourrait décider de quitter l'Union le 23 juin au soir, ce qui, en termes diplomatiques et politiques, signifie demain. Dans ce cas, la période de 2 ans de négociations serait automatiquement lancée, embarquant le Royaume et Bruxelles dans ce que le chancelier de l'échiquier britannique George Osborne prédit comme étant un divorce long, coûteux et bordélique. Que Bruxelles se refuse à envisager ce scénario reflète un déni de réalité inquiétant à plus d'un titre. Le premier est immédiat, les technocrates européens ne sont pas prêts pour gérer une situation inédite qui ne s'inscrit pas dans leur routine. Le second est que précisément l'Union européenne est incapable de voir cette sortie potentielle comme une occasion de réécrire le projet politique de l'Europe autour de ce qu'il doit devenir vraiment, à savoir un projet fédéraliste. 18h11 et 27 secondes sur notre antenne, l'heure de passer dans un instant avec Vincent Tell au Feuillet de l'Europe. Et pour l'ouverture de ces feuillets, je vous passe l'antenne, cher Vincent.
Merci Antoine. Ce soir, les feuillets de l'Europe, c'est une tâche bien difficile, bien ardue et lourde. Donc, je vais vous demander un peu d'aide. J'aimerais savoir sur quoi vous voulez que je parle en premier. Sur le fameux contrat zéro heure pour les emplois intérimaires ou sur la commémoration de la journée citoyenne du citoyen à Liège. Les deux sont très liés, mais nous pouvons traiter l'un ou de l'autre dans n'importe quel sens, si je puis dire.
Ah, l'un ou l'autre, mais pas les deux.
L'un et l'autre, mais il faudra alors aller plus vite.
Ah, mais voilà. L'un et l'autre, Vincent, l'un et l'autre.
Bon, eh bien...
Mais je vous remercie tout de même de nous faire la proposition. Pour une fois, nous pouvons choisir, enfin en tout cas, je peux choisir, parce que ceci est une dictature, je peux choisir de ce dont vous allez parler. C'est un plaisir rare, mais
je vous propose ô combien chaleureux. Je vous propose le choix sur des sujets que j'ai choisis.
Oui, c'est un peu le principe du référendum. Hein.
Eh oui, alors ça a des limites, la liberté. Alors écoutez, je suis littéralement tombé des nues, et c'est le cas de le dire, puisque je suis dans mon grenier. Je viens d'apprendre que le ministre du Travail, je ne sais pas si c'est ainsi qu'on le désigne, Chris Peters en Belgique, est en train de travailler à un projet de loi comprenant évidemment plusieurs propositions au groupe des 10. Alors tout de suite, je vous entends au moins en tous les cas mentalement vous poser la question, mais qu'est-ce que le groupe des 10? Alors je réagis tout de suite en vous expliquant rapidement que le groupe des 10, en fait, c'est une sorte de commission, une forme de d'association en fait entre des représentants des fédérations syndicales, les fédérations patronales et même des représentants des classes moyennes. Il y a que les Belges pour inventer des représentants de classes moyennes, mais ça existe. Donc le patron et syndicat forment un groupe. Donc on y retrouve 5 représentants des 3 syndicats, CSC, FGTB, qu'on connaît souvent, qu'on entend souvent à la radio, on parle souvent de la FGTB, et la CGSLB, et 5 représentants des fédérations patronales, la FEB, mais aussi classe moyenne et Boerenbond. Alors ça, par contre, je ne sais pas ce que c'est que le Boerenbond. Alors, donc ce groupe des 10, qui est un groupe de commission, de conseil, voire peut-être même qu'il a un pouvoir de décision, a reçu la proposition de M. Chris Peters pour un projet de loi. ce projet de loi et le suivant, tout simplement, eh bien, c'est d'adapter le droit du travail à l'emploi du 21e siècle. Tout de suite, ça fait bien, ça veut dire qu'il faut s'adapter à la réalité. Ce projet, le projet principal, l'élément principal, eh bien, c'est tout simplement proposer un contrat à zéro heure. Les contrats zéro heure, ce sont des contrats où l'employeur n'est plus tenu de mentionner des indications sur les horaires et la durée du travail. Seules les heures prestées sont payées et le travailleur doit rester disponible à n'importe quel moment de la journée. Les projets sur la table du Conseil national du travail vont dans ce sens, c'est ce que dénonce aujourd'hui le 7K. Le 7K est un syndicat socialiste. Ces réformes visent principalement les travailleurs à temps partiel. Les contrats de travail n'apporteraient plus aucune certitude sur les horaires à prester. Les horaires pourraient n'être communiqués que 24 heures à l'avance. Les sursalaires en cas d'heures supplémentaires n'existeraient plus. Le 7K dénonce des projets de loi dangereux. Le gouvernement Michel oblige déjà les travailleurs à temps partiel à rechercher activement un travail complémentaire sous peine de sanctions. Avec ces projets de loi, ce serait tout bonnement irréaliste, dit le 7K. Cumuler deux temps partiels deviendrait dans la pratique impossible. Alors, j'invite les auditeurs à se rendre sur le site RTBF Info. Il y a à peu près trois pages qui sont reliées, qui permettent d'avoir des informations un peu plus précises. Il y en a un notamment, toujours sur la RTBF, qui déplie le projet de loi. Qu'est-ce qu'un contrat zéro heure? À qui cela profite? Alors tout de suite, la réponse du journaliste, c'est évidemment à l'employeur. Qui est lésé par ce type de contrat? Si les employés engagés sous ces termes ne savent pas quand et pour combien de temps ils auront du travail, ils ne sont cependant pas forcés d'accepter les heures de travail proposées. Mais ces incertitudes peuvent rendre difficile l'organisation du travailleur. En théorie, pour optimiser la flexibilité, il doit être disponible à n'importe quel moment de la journée. Il n'est pas non plus certain du salaire qu'il touchera en fin de mois étant donné que le nombre d'heures rémunérées est très variable. Dans quel pays cela est-il mis en place? Principalement en France, je ne le savais pas, et au Royaume-Uni. Alors on nous parle toujours du Royaume-Uni comme un modèle repoussoir, et la France serait, semble-t-il, un îlot de protection de l'employé, du travailleur, et d'après cette page de la RTBF Belgique, info, cela existe déjà pourtant en France. Les relations de travail ne sont plus soumises à un code du travail, mais par des textes vagues et surtout par la jurisprudence. La loi ne fait pas obligation de signer un contrat de travail, mais seulement dans les deux mois de l'embauche. Un document récapitulant les conditions essentielles de la relation entre employeur et salarié. C'est ainsi que l'entreprise McDonald's comptait en 2013 quasiment 90% d'employés au contrat dit précaire. Voilà, mais avec quelles conséquences? Cinquième question, et vous pourrez donc lire les conséquences. Donc, proposition de loi de Monsieur Chris Peters, c'est la proposition la plus importante faite au groupe des 10, ce qui est déjà pas mal, j'en reste sans voix en lisant ça. Voilà, est-ce que vous avez des remarques à faire? C'est assez étonnant.
Bah, écoutez Vincent, on voit que tout cela s'inscrit dans ce qui devient une habitude, un mainstream économico-politique, si ce n'est, je dirais même, idéologique finalement, sur la question sociale qui est de détruire ce que peut être un contrat de travail pour ce qu'il est actuellement en Europe, à savoir un contrat qui lie deux parties, un employeur et un employé, sous un lien de subordination où l'employé se voit rétribuer d'une somme mensuelle ou annuelle dans les cadres légaux définis par chaque État, en échange d'un volume de travail. Et on voit que cela est de plus en plus remplacé par un retour au 19e siècle, un retour à la tâche où ce volume de travail n'est plus garanti, donc la rétribution n'est plus garantie, et on est dans ce que certains appelleraient une flexibilité de l'emploi, en tout cas une réelle précarité pour ce que cela veut dire. Et c'est ça la nouvelle vision du travail au XXIe siècle. C'est assez affolant, mais on voit finalement des choses très similaires, ce qui se passe en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, avec la loi, en ce moment extrêmement d'actualité, la loi dite sur le travail, la loi El Khomri, sur laquelle les syndicats se mobilisent énormément, ainsi que ce qui reste de l'aile gauche de la scène politique. Eh bien, vous voyez, la Belgique est aussi dans ce lot. Finalement, on peut tergiverser sur la comparaison entre les États membres. On est tous embarqués dans le même mainstream idéologique qui nous empêche finalement de voir plus loin que ce qui s'applique chez notre voisin proche. Et on continue, voilà, d'appliquer des logiques dont finalement on a peu d'espérance qu'elle fonctionne, hein, puisque l'Angleterre n'a pas vu, comment dirais-je, un enrichissement des classes les plus populaires via ses contrats zéro heure. Au contraire. Oui, Vincent.
Le but, c'est pas d'enrichir les classes sociales, c'est avant tout de fabriquer un réservoir humain d'esclaves sociaux. Donc, je dirais mission accomplie en Grande-Bretagne. Ce qui est étonnant, c'est qu'il semble, d'après la RTBF, mais peut-être que le rédacteur des articles se trompe, mais il semble, d'après eux, que ça existe déjà en France. En tous les cas, si ça n'existe pas, avec les projets de loi qui vont arriver, le projet de loi qui a été mis en suspens, ça pourrait être un équivalent.
Alors, il n'est pas en suspens, l'examen est reporté, mais le projet de loi est toujours maintenu.
D'accord.
Alors oui, peut-être fait-il allusion tout simplement à la situation des intérimaires, qui effectivement s'apparentent, pas totalement, mais peuvent s'apparenter dans les grandes lignes à des contrats zéro heure. Mais vous rappelez, Vincent, que cela n'est pas fait pour enrichir. Bien sûr que ces contraintes ne sont absolument pas faites pour enrichir les travailleurs, mais ils doivent, cette évolution doit nous interroger sur le sens d'évolution de l'histoire sur le plan social, où on était d'une habitude où l'histoire allait vers le progrès social et elle y allait pour une bonne raison. Le bien-être de l'ensemble de la population, notamment des travailleurs, passait par une sécurisation des questions sociales, parce que c'est une sécurisation des besoins vitaux. Une personne dans une situation précaire n'a pas le temps ou ne peut pas libérer son esprit à d'autres questions qu'à celle d'être en capacité de s'interroger sur sa capacité à répondre à des besoins vitaux de logement, de nourriture, etc. Contrairement à une personne qui se trouve dans une situation d'emploi stable. Et on est en train de revenir à une précarisation systématique du travailleur. C'est extrêmement inquiétant sur la vision du progrès, c'est-à-dire que l'on passe d'un moment où le travail avait une réelle utilité économique et permettait la progression de tous, ce qui était le cas pendant les Trente Glorieuses par exemple, à un travail qui redevient de l'esclavage, réellement, sans avoir besoin de plus tergiverser, ça redevient de l'esclavage. Et face à ça, finalement, tout le monde y va presque de bon cœur, puisque en ces 20-30 dernières années, on ne peut pas dire qu'il y ait eu de mobilisation massive face à ce qui reste, pour moi, un retournement de l'histoire, quelque chose qui va à contresens, à contre-courant, et contre toutes les logiques économiques qui voudraient que, précisément parce que des enjeux énergétiques, environnementaux, etc., doivent nous amener à réduire les productions, non pas faire de la décroissance, mais réduire la production, donc ralentir la croissance du volume de travail nécessaire. Face à cela, on devrait avoir apparaître des réductions du temps de travail pour permettre à tous d'être à égalité devant le travail, et en plus et en moins, c'est-à-dire ne pas avoir d'un côté 3 ou 5 millions de chômeurs et de l'autre 5 ou 6 millions de personnes qui font des heures supplémentaires, ce qui n'est pas un système très cohérent. On devrait tendre vers ce qui est du pragmatisme économique, ce qui reste et qui demeure du pragmatisme économique et qui permet, après une évolution positive culturellement, dans la démarche citoyenne, donc politiquement aussi, et au-delà de ça, on est sur un chemin qui est strictement l'opposé, où l'on devient obsédé par la valeur travail à un point où l'on ne comprend plus pourquoi les gens travaillent. Simplement, il faut travailler, c'est ça, ça devient un dogme, sans être capable de replacer l'utilité de notre travail dans une réelle conception de la société. Vincent s'est endormi.
Non, pas du tout. Je pense que c'est une situation qui n'est pas prise, enfin, qui me semble ne pas être bien perçue par chaque citoyen, en fait.
De manière individuelle, c'est sûr.
Et les enjeux, comme vous les avez expliqués, ne sont pas assez perçus par les individus. Et je crois que les individus semblent nourris par une angoisse du non-travail, du chômage. Et ce que l'on propose, c'est avant tout un contrat avec le diable. C'est-à-dire une véritable soumission du temps de vie. Et comme vous le faisiez très justement remarquer, ils auront un temps où il n'y aura qu'un seul souci, c'est celle de trouver du temps de travail et rien d'autre.
Alors Vincent, je vous propose de passer à votre deuxième article.
Eh bien,
parce que l'heure tourne, mine de rien.
Merci pour l'invitation, car ce n'est pas une pirouette que je vais faire. Donc je regardais toujours la vie sociale, culturelle en Belgique, et je découvre l'opération Debout Citoyen a été lancée à Liège. Donc, je lis rapidement. Debout Citoyen est un label, celui d'une opération initiée par la province de Liège et qui mêlera tout au long de cette année expositions, conférences, spectacles, concerts ou publications, notamment mettant tous en valeur la citoyenneté sous différentes formes. Objectif, conscientiser aux valeurs liées à la citoyenneté. Article assez important, et à cette occasion, les anniversaires de plusieurs événements seront célébrés. Du 950e anniversaire de la Charte des libertés de Huy au 25e anniversaire du traité européen de Maastricht, en passant notamment par des événements dont nous vous avons récemment parlé, le 700e anniversaire de la paix de Fex et le 50e anniversaire de la grève des femmes à la FN à Herstal. Alors, FN, c'est pas le parti, le Front National, hein, c'est la Fabrique Nationale d'Armement de Liège.
Quoique le Front National est peut-être aussi une fabrique d'armement géante. Hein.
Oui. Je vais m'enquérir de tout cela, car cela reste pour moi assez mystérieux. Donc, j'ai découvert en fait un site, Le Vieux Liège, une association pour maintenir le souvenir de cette commémoration du 700e anniversaire du Mal Saint-Martin, 3 et 4 août 1312. Et ne croyez pas que nous nous éloignions du premier article sur le projet de loi de Chris Peters, car en fait, si parmi nos auditeurs il y a des étudiants en histoire, ou voire même des enseignants en histoire, eh bien en fait, cet événement qui date donc du XIVe siècle, c'est l'histoire de des revendications des classes des petits, des manants, des artisans, des ouvriers du monde de la cité de Liège, qui prétendaient à avoir une part dans la direction de la cité de Liège. Et face à quoi? Eh bien, tout simplement face à des pouvoirs politiques et sociaux, financiers et militaires. Donc, c'est-à-dire le poids de l'Église, du clergé, qui est déterminant dans le fonctionnement politique de la cité. Il y a en effet le prince-évêque, le chapitre cathédral, c'est-à-dire les chanoines de Saint-Lambert, et le patriciat, c'est-à-dire les puissants lignages urbains, donc les grandes familles qui ont fait fortune dans le commerce et la fabrication des draps. Donc une oligarchie qui occupe les postes officiels et administratifs. Donc à la même époque, il y a eu un équivalent de la révolte des petits par rapport aux nobles ou aux patriciens des grandes cités. Ils se sont d'ailleurs affrontés aux forces armées du roi de France. Ça a été la fameuse grande bataille de 1302, les éperons d'or, durant laquelle une partie des chevaliers français ont été égorgés à qui mieux par les flamands. C'est de là que vient d'ailleurs le fameux proverbe un Français, un couteau, un Écossais, un couteau, un Flamand, deux couteaux. Pour dire à quel point ils étaient bien armés. Et donc, à Liège, il y a eu cette révolte des petits, avec une révolte qui a été particulièrement sanglante, avec les patriciens qui ont massacré à tour de bras la population qui réclamait un droit de direction, mais aussi un massacre de ces familles patriciennes de Liège qui a été quasiment décimée durant la nuit du 3 et 4 août 1312. Donc il y avait déjà, si je puis dire, une guerre sociale et une guerre économique entre des patriciens qui possédaient le pouvoir politique et une population qui travaillait mais qui n'avait strictement aucun pouvoir de décision. Autre anniversaire à célébrer. On ne s'éloigne toujours pas de cette lutte sociale entre, si je puis dire, les ouvriers et des pouvoirs politiques un petit peu lents à se décider. C'était le 16 février 1966, éclatait la grève à travail égal, salaire égal. 3000 ouvrières de la Fabrique nationale d'armes de guerre, c'est la fameuse FN de Herstal, douze semaines de grève, pour tout simplement l'application de la loi consécutive aux accords du traité de Rome signé par la Belgique. Dans la série Herstal des révoltes, cette grève a donc bien une place centrale. Je cite l'auteur d'un blog. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'ONU et l'Organisation internationale du travail, OIT, inscrivent dans leurs principes l'idée à travail égal, salaire égal. En 1957, le traité de Rome qui crée le marché commun reprend lui aussi ce principe dans son article 119. Bien entendu, ce principe n'est mis en œuvre nulle part, mais son application deviendra la revendication centrale des ouvrières en grève de la FN, qui a eu lieu donc en 1966 et qui a mobilisé 3000 ouvrières, c'est énorme, on ne verrait plus ça maintenant, pendant 12 semaines. Herstal est rentré dans l'histoire pour trois choses, et en particulier pour cette fameuse grève qui a été exceptionnelle. Donc vous voyez, ce que j'aimerais conclure, c'est que pour ceux qui pensent que l'histoire est menée par un esprit souverain qui vole au-dessus des phénomènes sociaux et historiques pour amener à quelques buts secrets, ce genre d'article nous révèle qu'il faut rester vigilant car l'histoire est faite par ceux qui la vivent et ceux qui ne l'acceptent pas. Voilà, à vous cher Antoine.
Merci Vincent. Alors de mon côté, sans doute des articles moins inscrits dans
moins
une...
Moins révolutionnaire.
Moins révolutionnaire, j'ai toujours su que vous étiez un marxiste caché, Vincent. Sous une admiration certaine pour des périodes sombres de l'histoire. Je vous propose de passer la manche, Vincent.
Ah.
Encore à la nage. Plus à la nage, et oui, comme les migrants. Chacun son tour. C'est ça du journalisme d'investigation. Alors pas à la nage, puisqu'aujourd'hui nous avons Internet, et cela ne demande pas de passer la douane britannique ô combien exigeante. Donc un article du Guardian, intitulé « Yanis Varoufakis conseille le parti travailliste selon les révélations de Jeremy Corbyn ». En effet, dans une interview à son journal local, qui s'appelle The Islington Tribune, le leader du parti travailliste a avoué que Yanis Varoufakis aidait dans certaines capacités, je cite. Yanis Varoufakis, vous en rappelez sans doute, Vincent ?
Oui.
Alors voilà, l'ancien ministre des Finances grec qui a démissionné en juin 2015 après un désaccord, avec le Premier ministre Alexis Tsipras qui avait à l'époque remporté les élections. Tout cela sur fond de désaccords profonds avec l'Union européenne sur les questions budgétaires. Donc Varoufakis est quelqu'un d'intéressant puisqu'il a pu évidemment voir et traverser les négociations avec la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne et le FMI. Voilà les déclarations de Jeremy Corbyn, le leader du Parti travailliste. Et il rajoute « Je pense que la manière dont la Grèce a été traitée est terrible et devrait nous toucher. » Il faut savoir donc que selon les sources internes au Parti travailliste, Varoufakis n'a pas de rôle officiel de conseiller du parti et ne siège pas dans le board, le conseil économique du parti. Mais il va sans doute donner une nouvelle lecture économique au chancelier fantôme d'ici la fin du mois de mars et lui donner des conseils sur les questions financières. Varoufakis avait révélé l'année dernière qu'il était en conversation avec le parti travailliste et il avait rajouté « Corbyn doit faire revivre la stratégie d'Harold Wilson dans les années 60 de réinventer les valeurs du parti travailliste dans un contexte d'un programme d'investissement dirigé par l'évolution technologique ». Voilà donc pour cet article, on s'en doutait un petit peu, mais enfin ça reste quand même une nouvelle. Après la Grèce, Yanis Varoufakis s'en va en Grande-Bretagne. Vous avez des questions, des remarques, Vincent, sur cet article, peut-être ?
Non,
absolument pas.
Une simple hypothèse, peut-être que va se reconstituer un réseau pour que au départ des hommes réfléchissent pour une autre proposition de société, parce que pour l'instant il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas de proposition d'une autre société, et peut-être que après ça descendra, ça ruissellera sur chaque citoyen qui décidera de ne pas accepter ce qu'on propose au départ comme une évidence au nom d'un pragmatisme curieusement toujours orienté vers l'intérêt de certains.
Eh bien, nous verrons cela. J'avance rapidement, Vincent, parce que l'heure tourne.
Eh oui.
Voilà une chose que les technocrates de Bruxelles ne comprennent pas. Mais ils ont tout de même pris une décision. Enfin, en tout cas, ils ont une volonté. Avant la décision en Europe, il y a la volonté. Et c'est à retrouver dans EU Observer avec ce titre « EU6 Oversight Powers on Energy Security ». À savoir donc que la Commission européenne veut pouvoir examiner tous les contrats, les nouveaux contrats majeurs de livraison de gaz avec des fournisseurs non européens en s'octroyant de nouveaux pouvoirs. Voilà donc ce qui a été révélé le 16 février dernier, c'est déjà vieux, pour plutôt prévenir des crises d'approvisionnement comme nous l'avions vu en Europe en 2009. Dans cette proposition, donc, les États membres seraient obligés de partager les détails des contrats à venir avec des pays non européens sur des questions comme le prix, le volume maximum journalier ou encore les conditions de suspension de l'approvisionnement. Ensuite, les officiels de l'Union européenne émettraient des recommandations que les États membres seraient forcés de suivre ou au risque de se retrouver devant la Cour européenne du Luxembourg. Évidemment, Vincent, vous vous doutez qui est la principale cible de cette décision ?
Le Gazprom.
Exactement, Gazprom, le géant.
J'en connais qu'un de toute façon et je pense qu'il y en a.
Mais il n'y en a qu'un. De toute façon, il n'y en a qu'un ou en tout cas un seul qui est la bénédiction de notre copain Vladimir. La Russie, oui, la Russie et surtout la Sibérie que deux types de personnes connaissent bien, ceux qui cherchent du gaz et ceux qui vont creuser des canaux. Et donc la Russie, Gazprom, la Russie qui est pourtant en discussion actuellement avec l'Allemagne sur le doublement de la capacité du pipeline Nord Stream. On en avait parlé, je ne sais plus si c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. La semaine dernière, exactement. Le doublement de cette capacité dans le cadre du programme Nord Stream 2. Malgré la crise ukrainienne, c'est discussions se poursuivent toujours. Donc Nord Stream 2, on le rappelait la semaine dernière, un projet qui est devenu hautement politique après que les pays de l'Est et du Sud de l'Union européenne ont accusé l'Allemagne de casser la solidarité européenne. On ne peut qu'imaginer que les recommandations de la Commission interviennent dans le cadre de ce projet Nord Stream 2, sachant que la Commission n'a toujours pas est toujours en train d'examiner pour savoir si ce projet est conforme avec les lois européennes ou non. Voilà donc cet article, je vous invite à le retrouver sur EU Observer, car évidemment la question énergétique est aussi au cœur de toutes les questions politiques. On ne fait pas de la politique qu'avec des bons sentiments, ce n'est pas Vincent qui me dira le contraire, je pense.
Exact, de toute façon il ne faut pas avoir de sentiments tout court.
Et oui, c'est EIBS Radio, une radio où on veut l'Europe, une Europe sans sentiments et sans concessions.
Ben oui, je reprends toujours mon vieux slogan, tu y les tous.
Ou un autre grand slogan, Vincent, c'est tous unis contre tous les autres.
Oui, s'ils sont pas trop nombreux quand même. Hein.
Vincent, je vous propose donc, à moins que vous ayez d'autres remarques sur cet article, qui pourrait à nouveau nous faire perdre toute forme de crédibilité. vous avez un doute, là, sur la réponse?
Non, non, du tout, du tout.
Du tout.
Je suis prêt pour passer à des choses un peu plus légères, si je puis dire.
Des choses un petit peu plus légères. Eh bien, écoutez, c'est dans un instant, évidemment, avec vos éphémérides. Où est-ce que vous nous emmenez ce soir?
Eh bien, en Pologne et un petit peu en Allemagne, mais par la magie d'Internet.
Oui, ouais, non pas de la ligne d'Ornais. Eh bien, c'est à suivre dans quelques instants, après ce jingle, vos éphémérides, Vincent. Et je vous laisse l'antenne.
Merci Antoine. Eh bien, chers auditeurs, donc je vous invite tout d'abord à vous rendre sur le site du MOCAC. Alors le MOCAC, qu'est-ce que c'est? C'est le Museum of Contemporary Art in Krakow. Alors le MOCAC, M-O-C-A-K, est un musée donc d'art contemporain, pas spécialement dédié, consacré à la représentation de la production des artistes contemporains polonais. Bien au contraire, c'est un musée d'art contemporain qui représente aussi bien des artistes américains que des artistes européens. Alors, il y a de nombreuses expositions, donc j'ai voulu vous en citer quelques-unes très rapidement. Tout d'abord, Artists from Krakow, The Generation 1980-1990, exposition qui a commencé le 16-10-2015 et qui dure jusqu'au 28 mars 2016. Donc il s'agit de représenter les productions des artistes polonais qui sont nés entre 1980 et 1990. Ça, c'est au niveau zéro du MOCAC, du Musée d'Art Contemporain. Mais il y a aussi une très belle exposition qui, elle, se trouve dans la Beta Galerie. Beta Galerie, c'est un des secteurs de ce musée d'art moderne qui s'appelle, donc cette exposition est intitulée Boys Cantor de Marco, une exposition qui elle aussi a commencé le 16-10-2015 mais qui va durer un peu moins longtemps jusqu'au 20 mars 2016. Il s'agit d'une exposition autant de documents, d'imprimés, d'écrits, de photographies sur trois grands artistes. Certains sont connus comme Joseph Beuys ou Tadeusz Kantor, dessinateur, dramaturge et metteur en scène polonais, né en 1915 et mort en 1990, à l'âge de 75 ans. Je tiens à rappeler à ma grande honte que l'UNESCO avait fait de l'année 2015 l'année Tadeusz Kantor, et je constate que aucun des médias français Pamem Arte n'a eu la présence d'esprit de rappeler que c'était justement l'année Cantor, l'année 2015, c'était l'année Cantor, alors que dans les années 80 et 90, Tadeusz Kantor faisait, si je puis dire, la une des journaux culturels et cultivés en France. À une époque, c'était le must obligatoire. Quant à Richard Demarco, je ne le connais pas, artiste peintre, entre autres, écossais, qui a, comme son nom l'indique, Richard Demarco, qui a été le créateur du Art Festival of Hindenburg, qui a commencé en 1970, et c'est durant ce festival donc d'art contemporain créé dans la capitale écossaise que se sont rencontrés Richard Demarco, Tadeusz Kantor et Joseph Beuys, et c'est le thème de cette exposition. Alors, autre chose, maintenant allons tout simplement en Allemagne. J'ai découvert, j'avais déjà eu l'occasion de parler de la Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, donc la maison de l'histoire de la République démocratique allemande. Donc, ce site, il y a un site pour cette maison de l'histoire de la nation allemande, et dans le menu supérieur pour avoir accès à des informations, eh bien, j'ai découvert un site qui s'appelle Les Mots ou Le Mot. Lebendiges Museum Online, et qui est en fait un site en ligne sur l'histoire de l'Allemagne, et qui est extrêmement bien fait, puisque cela va du tout début du 19e siècle, tout de suite après les guerres de libération de l'occupation française par les troupes de Napoléon, en passant évidemment jusque la chute du mur de Berlin. Donc il y a évidemment, rien n'est omis, rien n'est mis de côté, et comme vous pouvez vous en douter, la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale et les exactions par les troupes allemandes en Europe centrale et en Europe de l'Est. Donc, très bon site, Les Mots, Lebendiges Museum Online. Très bon site que j'invite nos auditeurs à aller visiter et même à utiliser.
Oui, Vincent, donc, voilà. Même si cela ne dispense pas, je me permets deux minutes, un conseil qui est d'aller voir cette Haus der Geschichte à Bonn, qui est un endroit assez incroyable et qui retrace donc l'histoire contemporaine de l'Allemagne de l'après-guerre à aujourd'hui.
Exactement. Donc c'est l'équivalent en ligne. Pour ceux qui ne peuvent pas ou qui n'ont pas tout de suite le temps, les possibilités de s'y rendre, d'avoir accès aux informations.
Voilà. Avec les contrats zéro heure, ils pourront bientôt avoir tout le temps qu'ils souhaitent.
Ah ouais, par contre, ils n'auront pas l'argent même pour se payer une place dans un autobus Macron.
Très belle transition, Vincent, bien trouvé. Belle chute. Je vous laisse poursuivre.
J'ai plus rien à dire.
C'est dommage.
Je veux pas gâcher cette chute, justement.
Vous ne voulez pas gâcher l'art de la chute. Eh bien, Vincent, si vous n'avez plus rien à dire, ce qui semble être le cas, je vous propose de conclure cette émission comme l'on peut. De vous inviter naturellement à la retrouver en podcast et nous de nous dire à la semaine prochaine, normalement, si après les propos que nous avons échangés aujourd'hui, nous ne sommes pas actuellement dans un espèce de mélange bizarre, à savoir dans un bus Macron à destination de la Sibérie pour creuser des canaux.
Payé par Poutine, peut-être. Là, ça sera payé par Poutine.
Oui, peut-être. Ou par le gouvernement britannique. En tout état de cause, si ce scénario catastrophe n'arrive pas, nous vous retrouvons naturellement la semaine prochaine, même endroit, même heure. Merci Vincent d'avoir participé à cette émission.
Merci Antoine, et en tous les cas, si nous n'avons plus jamais l'occasion de parler sur Internet, je tiens à dire aux auditeurs que ça m'a fait vraiment plaisir de faire ces émissions et que bah, si possible, je garderai un bon souvenir d'eux. Mais bon, là où je serai, je pourrais pas leur donner de nouvelles. Hein.
Si, Vincent, tout ira bien.
Tout va bien se passer, c'est ce que disent beaucoup de gens.
Exactement. Eh bien, quant à moi, exactement la même chose. J'espère à la semaine prochaine, sinon, mes meilleurs voeux pour et très bonne continuation.
Bonne route.
Bonne route. Bonne route dans l'écart Macron. Au revoir Vincent, je pense que nous avons assez dit de bêtises. Au revoir et normalement
au revoir,
la semaine prochaine.
Antoine, au revoir chers auditeurs.